RFI vous présente Afrique Presse.
Hassan Diop.
Bienvenue à tous. Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde. C'est avec Pierre Benoît pour TV5 Monde, Sabine Sessou, Afrique Magazine et Vincent Hugeux de L'Express. Au menu de cette édition, la RDC avec cette nomination d'un nouveau Premier ministre issu de l'opposition en application des accords du fameux dialogue politique national controversé. Et il y a toujours en RDC cette visite dans le pays du Conseil de sécurité de l'ONU. Et puis en Éthiopie, des arrestations massives en vertu de l'état d'urgence décrété depuis le début du mois d'octobre. D'abord, la RDC, donc, dotée d'un nouveau Premier ministre, Pierre Benoît. Il s'agit de Sami Badibanga, le titulaire. Il est issu des rangs de l'opposition parlementaire comprévue par les accords du dialogue politique national controversé. Mais avant d'en parler, le sujet est résumé par Francine Mokoko de Kinshasa et pour TV5 Monde.
Âgé de 54 ans, Sami Badibanga Tita est originaire de la province du Kasaï oriental. Il a fait des études supérieures en sciences humaines à Genève et détient un diplôme de l'école du Haut Conseil de Diamants d'Anvers. Le nouveau Premier ministre est un proche de l'opposant historique Étienne Tshisekedi. Il fut pendant 2 ans son conseiller spécial jusqu'à son élection comme député national en 2011. Il décide, contre instruction d'Étienne Tshisekedi, de siéger à l'Assemblée nationale et devient le président du groupe parlementaire UDPS et alliés. Sa nomination est pour les 42 membres de ce groupe, du reste tous radiés de l'UDPS, le couronnement de leur lutte au sein de la Chambre basse du Parlement.
Voilà, donc retour ici à Paris, Pierre Benoît. Hein. Augustin Matata Ponyo est donc parti après avoir dirigé le gouvernement, le second gouvernement de Kabila tout au long de ces quasi 5 dernières années. Kabila, lui, garde son fauteuil jusqu'en 2018 en vertu du glissement et en vertu aussi des accords scellés lors de ce dialogue politique national où siégeait simplement une partie, une minorité de l'opposition. Et toujours en application donc de ces accords, arrive un nouveau Premier ministre issu des rangs de l'opposition. Sami Badibanga se dit membre de l'UDPS, mais il a été radié de ce parti par Étienne Tshisekedi depuis 2012.
Il a été viré par le patron, hein, par le patron de l'UDPS. Il a été le patron du groupe parlementaire, etc. Mais à un moment donné, Étienne Tshisekedi a demandé la suspension de tous les élus dans toutes les instances d'ailleurs du pays, hein, pas simplement.
Voilà, est-ce qu'il incarne l'opposition?
Non, il incarne pas l'opposition. Il incarne un courant de l'opposition. Et puis depuis les accords contestés donc par les gros bataillons de l'opposition qui prévoient le glissement dont vous venez de parler, Hassan, eh bien effectivement on a un ersatz d'opposition qui joue le jeu par rapport à finalement au calendrier décidé par Kabila. Alors dans ce coup de presque ce coup de jarnac, il faut souligner au passage, mais sans insister, mais pour le dire aussi, clairement, que Kabila a joué assez finement puisqu'on attendait Vital Kamerhe. Il était prêt, il était dans les starting blocks, hein, l'ancien président de l'Assemblée nationale, un chevau léger de l'opposition, mais quand même très engagé. Eh bien, finalement, il a choisi Badibanga, et c'est peut-être un très bon coup parce que d'abord ça sème encore la zizanie au sein de l'UDPS, et d'autre part, ça permet d'avoir finalement un homme qui est très influençable pour gérer le calendrier qui a été décidé par le patron du pays.
Par le dialogue national. Voilà. Alors, Sabine Sessou, le grand perdant pour l'instant à ce stade, c'est Vital Kamerhe. Hein, c'est lui qui était donné comme premier ministrable et c'est Badibanga qui est sorti du chapeau.
Il a été Vital Kamerhe, c'est un peu tant pis pour lui puisqu'il a été à la soupe. On l'a accusé d'avoir été à la soupe en allant au dialogue national et en acceptant des perdièmes. Et le poste revient à Sami Badibanga, c'est un coup de maître de Kabila, je dois dire, parce que Sami Badibanga, d'accord, c'est un dissident de l'UDPS, mais c'est un homme très populaire au Congo, Kinshasa, surtout dans la ville de Kinshasa, parce qu'il a été aux avant-postes des émeutes de janvier 2015 contre la modification de la loi électorale, émeute qui avait obligé le pouvoir à faire marche arrière et à renoncer à modifier cette loi électorale et à faire un recensement de la population qui aurait pris des années avant de faire des élections. Donc, Sami Badibanga est très populaire à Kinshasa. S'il dit aux Kinois, les gars, on bouge pas, on sort pas, il se passera rien le 19 décembre. Et Kabila a réussi son coup, c'est-à-dire, il se passera rien le 19 décembre.
Sabine, lorsque vous dites qu'il ne se passera rien le 19 décembre, au terme du mandat constitutionnel, du second et dernier mandat constitutionnel de Kabila, vous voulez dire que Étienne Tshisekedi et Moïse Katumbi n'ont plus de marge de manœuvre?
La colère va exploser, la colère va se manifester. Je crois qu'il y a une manifestation prévue demain aussi.
Nous enregistrons cette émission ce vendredi.
On va voir ce que ça donne. La dernière fois qu'il y a eu une velléité de manifestation, la police a organisé un match de foot qui a duré toute la journée sur le boulevard Triomphal, avec un score de 102 à je ne sais plus combien.
Quartier de Liberté a été investi par la police.
Donc le pouvoir fait preuve d'une créativité politique hallucinante pour empêcher les manifestants de défiler, mais en même temps, on peut pas non plus dire que je peux pas être sûr qu'il se passera rien. Il se passera sans doute quelque chose. Il y aura des manifestations, mais le fait que Sami Badibanga soit devenu Premier ministre coupe vraiment l'herbe sous le pied de Tshisekedi et Moïse Katumbi. Je vois pas comment Moïse Katumbi peut mobiliser maintenant depuis son exil. Les masses de Kinshasa.
Oui, parce qu'il ne peut plus rentrer au pays.
D'autant
plus. Il a été condamné.
Oui, il peut mobiliser à Lubumbashi et dans d'autres villes, mais Kinshasa reste le fief de l'UDPS. Il n'y a rien à faire.
Il y a eu les morts, hein, vous savez, manifester à Kinshasa, il faut le dire clairement d'entrée de jeu, et il y a tout de suite 50
morts. Rassurés. Alors, Vincent, la marge de manœuvre donc, des deux grandes figures, finalement, de l'opposition déterminée face à Kabila.
Totalement étriquée, et en même temps, certes, le clan Kabila reste maître du jeu, dont il est le metteur en scène, et il y a néanmoins des indices de crispation, dont une martingale classique dans l'arsenal de la répression, qui est par exemple de bâillonner des radios avec
Absolument.
Des signaux qui sont coupés, c'était le cas pour RFI, BBC, la Voix de l'Amérique, la radio Capi également, et avec une rhétorique fleurie que l'on retrouve dans la bouche de l'inénarrable Lambert Mende.
Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement.
En expliquant évidemment que tout cela, il faut revisiter les accords. On en est à construire par le biais d'un arrêté orwellien l'idée que les sociétés qui émettent au niveau des radios, par exemple, doivent avoir dans leur capitale une majorité de Congolais, ce qui est une absurdité de collection, mais enfin, peu importe. Et on est à nouveau, quand je parle de crispation, dans ce reflet presque pavlovien des tensions avec Paris. Vous vous souvenez de la prise de position de François Hollande à la tribune des Nations Unies sur le respect de la Constitution. Jean-Marc Ayrault est allé de son petit commentaire avec une fermeté qu'on ne lui connaissait pas d'ailleurs. Et aussitôt, boum, néocolonialisme,
Absolument.
Manœuvre,
la rhétorique
etc.
Bon.
Donc ça prouve que malgré tout, on sent bien que c'est pas aussi simple qu'on le rêverait dans les palais de Kinshasa.
C'est intéressant, Sabine, justement, Vincent aborde l'aspect international finalement face à ce qu'il faut bien appeler une crise politique, une nouvelle crise politique en RDC. Aujourd'hui, on peut aussi dire que finalement, Joseph Kabila bénéficie ici de vent favorable au niveau international. D'abord, il a des soutiens à l'échelon sous-régional. Les dirigeants de la sous-région le soutiennent de manière tacite. Et puis, Barack Obama, l'empêcheur de tourner en rond, va bientôt céder son fauteuil à Donald Trump. Donald Trump qui, au fond, sans doute sera moins exigeant sur les respects des principes démocratiques, voire d'alternance.
Donald Trump a dit des choses sur l'Afrique qui sont sans ambiguïté.
Oui, voilà.
C'est une bande de paresseux qui ne travaillent pas. Donc,
c'est
voilà.
Ça.
Donc c'est clair, Donald Trump ne va pas s'intéresser à l'Afrique.
Donc,
et c'était le calcul de Kabila d'ailleurs.
Ah, oui.
Il y avait ce calcul sur le jeu politique américain depuis le début. C'était clair. Maintenant, je pense que la communauté internationale, si elle mise sur une pseudo-stabilité en RDC, elle se fourre le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate, comme au Burundi. C'est-à-dire que si on mise sur la stabilité d'un dictateur qui respecte pas sa constitution et qu'on refuse d'aider des peuples qui se soulèvent pour faire respecter leur constitution, on est complètement à côté de la plaque et nous, on va le payer cher pendant très longtemps.
Vincent,
on est en RDC aujourd'hui, au Gabon hier, au Cameroun, au Congo Brazza, sans doute demain, dans des figures de style de l'anachronisme politique. C'est-à-dire qu'au nom de cette sacro-sainte stabilité, on soutient à bout de bras des régimes qui sont en décalage total avec les aspirations certes brouillonnes de leur peuple. Et effectivement, on creuse consciemment ou pas le tombeau dans lequel le fameux lien privilégié dont on se repaît depuis des décennies va bientôt reposer. Vous savez, c'est la fameuse martingale classique que Chirac employait déjà en son temps. Ah oui, lui ou le chaos, mais en règle générale, ça se termine par lui et le chaos.
Voilà. Alors, la question du troisième mandat, hein. Kabila a rencontré donc cette fameuse délégation des 15 ambassadeurs qui constitue le Conseil de sécurité de l'ONU la semaine dernière, et il a promis qu'il respectera la Constitution, mais rien ne dit, Sabine ou Pierre, qu'il ne tripatouillera pas cette cette constitution d'ici 2018, fin de la transition, Sabine.
Je pense que, comme le dit Moïse Katumbi, très justement, il n'y a aucune raison de croire qu'un président qui ne respecte pas sa constitution respecte un compromis politique qu'il n'a d'ailleurs même pas signé personnellement.
Absolument.
Pierre, vous êtes de cet avis ?
Oui, c'est tout à fait évident. Non seulement il y a le calendrier qu'il a pour lui, la constitution, il s'est assis dessus, les accords, il va s'asseoir dessus, et de toute façon, entre-temps, le climat international se dégrade vitesse grand V. Il y a un repli nationaliste qu'on constate sur plein de continents, donc le côté chacun pour soi et on est maître chez soi, ça va se développer. Voilà.
Alors, vous l'avez évoqué, Vincent, il y a donc cette visite du Conseil de sécurité qui a insisté auprès de Kabila, auprès des autorités du pays, sur le respect du droit de manifester. On sait qu'on peut pas manifester, on ne peut plus manifester à Kinshasa, voire dans le reste du pays, jusqu'à la fin de l'année, ce qui coupe l'herbe sous le pied, évidemment, à des opposants déterminés. Vous avez évoqué ce décret surréaliste de Lambert Mende. Alors, ces ambassadeurs ont plaidé en faveur du respect des grands principes, mais finalement, les autorités de Kinshasa ont répondu en quelque sorte par un bras d'honneur.
Oui, un bras d'honneur, puisque c'est le coup du baromètre, c'est-à-dire que quand la météo vous est défavorable, vous piétinez le baromètre. Oui, voilà. C'est-à-dire effectivement, vous avez des journalistes qui font leur boulot, qui rendent compte de la complexité, c'est le cas d'ailleurs de Sonia Rollet.
De Sonia Rollet, de RFI. De RFI. Ouais.
Et c'est ça qui leur est reproché. Mais effectivement, quand on parlait de la réprobation purement formelle, rhétorique, c'est un peu le problème. Le calcul de Kabila, c'est évidemment de limiter la casse. Le calcul des chancelleries, c'est aussi que la casse soit limitée. Sans remettre en question quelqu'un qui, effectivement, n'a aucune raison de respecter ce qu'on appelle la loi fondamentale, la Constitution, et donc pas davantage, évidemment, à un accord qui n'a pas cette portée à la fois symbolique et juridique. Mais vous savez, c'est pas un cas unique, hélas. Le problème, c'est que le calcul, vraisemblablement, de Kabila et de son entourage, c'est que en interdisant les manifestations, compte tenu du degré d'exaspération qui est palpable à Kinshasa et ailleurs, vous allez au-devant, donc, de manifestations spontanéistes, illégales, etc. Donc, à nouveau, d'un cycle de répression.
C'est ça.
Et ne pas clairement dénoncer ce type de calcul-là, c'est déjà faire preuve, pas seulement de passivité, mais d'une forme de complicité.
Voilà, brièvement, Sabine.
Oui, je crois que tout le monde a intérêt à ce que le Congo reste un État faible, parce que pendant ce temps-là...
Les affaires continuent.
Les affaires
le cuivre
continuent,
oui.
Les affaires continuent.
Voilà. Sujet inépuisable que cette crise politique en RDC, RFI TV 5 Monde, dans Afrique Presse, bien sûr, l'Éthiopie, l'Éthiopie où le pouvoir se braque. Pierre Benoît, un pouvoir qui arrête à tour de bras depuis l'instauration de l'état d'urgence début octobre, le pays compte plus de 10 000 détenus de plus, un chiffre officiel, chiffre donné par les autorités. Alors, c'est le traitement de choc qui répond principalement à cette vague de contestation des Oromo, l'ethnie majoritaire du pays qui refuse la captation de ces terres par l'État, et puis surtout aussi d'être considérés comme des Éthiopiens de second ordre. Voilà.
Oui, c'est une crise de régime complète. Alors, on se souvient que c'est le mouvement de libération dominé par les Tigréens qui est au pouvoir et qui a renversé la dictature de Mengistu. Mais aujourd'hui, c'est une prison à ciel ouvert. Non seulement il y a les 10 000 arrêtés, mais il y a probablement 600 à 1000 victimes mortes depuis un an, depuis 2015. Et ce qui se passe, c'est que finalement, on voit l'Éthiopie comme un grand succès, une croissance à deux chiffres, etc., etc., avec des gratte-ciel qui poussent dans le cœur de Addis Abeba. Mais justement, même la croissance sur Addis Abeba, la croissance urbaine et démographique est au cœur du problème, puisqu'on est en zone Oromo et il y a des appropriations illégales de terres. Donc c'est à la fois une crise de régime, de système qui prend très vite une allure ethnique. On va voir sans aucun doute une frange radicale de cette communauté Oromo, et les Amaras sont payés à la même enseigne, devant la mort et l'emprisonnement. Et il ne faudra pas s'étonner. Il y aura aussi des formes radicales et peut-être militaires armées. Voilà.
Alors Sabine, voilà, l'Éthiopie jouit d'une bonne image. On évoque à tour de bras, à tour de micro et de papier, la croissance à deux chiffres. Mais cette croissance est non seulement non inclusive, c'est-à-dire que tout le monde n'en bénéficie pas, mais c'est aussi une croissance, comme on le constate, qui se fait au détriment d'une large partie de la population.
De ce point de vue-là, c'est intéressant de voir à quel point il y a une schizophrénie entre le discours médiatique et la déconnexion que nous, médias, pouvons avoir avec la réalité. Ça, c'est un problème général qu'on a vu avec l'élection de Trump, mais qu'on voit un peu partout, et qui est vraiment notre responsabilité, je pense.
En tant que médias.
Oui, en tant que médias. Il faut vraiment qu'on...
Le discours économique dominant, notamment.
Mais absolument. Si on relaye...
L'Afrique qui gagne, l'Afrique qui bouge.
Si on passe notre temps à se copier les uns les autres et à reprendre les mêmes titres que le voisin sans aller sur place vérifier des choses, etc., voilà, on en arrive là. C'est-à-dire, on pense qu'il y a une success story en Éthiopie. Il y a une jolie dame qui vend des jolies chaussures. Elle a un joli sourire. C'est l'histoire de Soul Rebels. Au niveau de l'Afrique, c'est un cas vraiment crucial, parce que il y a un rapport avec les RDC. En plus, c'est que ce qu'on voit venir en Éthiopie, c'est une révolution africaine, en fait. On va droit dans le mur. Si, avec la croissance démographique qu'il y a en ce moment, il n'y a pas de politique publique, de croissance inclusive, de redistribution des richesses active, de donner des perspectives aux jeunes, mais on va droit dans le mur. On va vers la révolution éthiopienne.
En termes d'image, justement, vue déformée de l'Éthiopie, vue stéréotypée, mais les Oromos, l'ethnie majoritaire et les Amaras souffrent aussi, finalement, d'un déficit de leadership, Vincent. Et puis, il est vrai aussi que dans les médias extérieurs, on en parle très peu.
Alors d'abord, c'est une excellente chose que l'on en parle ici. Reprenons un peu la genèse de la crise en cours. Tout démarre le 2 octobre lors d'un festival religieux traditionnel dans une ville qui s'appelle Bishoftu, à une cinquantaine de kilomètres au sud d'Addis Abeba. C'est donc auprès d'un lac sacré, une cérémonie mais parfaitement traditionnelle. Quand est-ce que ça chauffe? C'est au moment où des dignitaires Oromo ralliés au régime font leur apparition. Et c'est là qu'on entre dans un cycle infernal classique, mouvement de foule, gaz lacrymogène, panique, au moins une cinquantaine de morts et peut-être le double. Ce que ça révèle, c'est quoi? Tigréen, 6% de la population éthiopie. La légitimité révolutionnaire, certes. Moi, je me souviens d'avoir été en Éthiopie et jusqu'à Asmara en 91, à l'époque où on lapidait à coups de pierre le buste de Mengistu sur la place d'armes d'Addis, etc.
Bon, c'est loin derrière.
Eh bien, c'est loin derrière. Bien, cette exaltation-là est bien retombée. Oromo, c'est grosso modo 35%. Avec les Amaras, 60% de la population. Des gens qui, depuis toujours, reprochent à cette élite tigréenne d'avoir confisqué les leviers à la fois de l'économie, de la politique et de l'appareil sécuritaire, ce qui est loin d'être inexact. Donc, l'illusion lyrique de l'Afrique qui gagne, dont on parlait à l'instant, a recouvert très longtemps une sorte de chape de soie, pardon pour l'oxymore. Donc, je veux dire, mais là aussi, on parlait du coup du baromètre, c'est aussi le coup du coureur de marathon. C'est-à-dire que celui qui est porteur de la mauvaise nouvelle, ben non, c'est pas aussi simple que ça, le continent qui serait destiné d'une manière quasiment inéluctable à la fois à la croissance économique sans retour et à l'essor démocratique. Mais non, c'est pas ça. Et l'Éthiopie n'est pas ça. Et vous avez en quelque sorte un phénomène qui a existé et qui existe encore aujourd'hui sur le Singapour de l'Afrique, vous savez, au sujet du Rwanda. Alors oui, bien sûr, vous avez un essor économique qui est supposé rassurer les investisseurs étrangers. C'est pas le cas parce qu'il y a des fermes qui ont été brûlées, il y a des cultures horticoles qui ont été détruites, etc., etc., des sites touristiques qui ont été détruits. Et tout ça se paye d'un verrouillage politique terrible. C'est très bien d'avoir 10% de croissance, mais ça profite à qui? C'est très bien d'avoir une mortalité infantile qui a été diminuée par deux, une malnutrition idem dans la décennie écoulée. Mais encore une fois, si ça ne se traduit pas sur l'ensemble de la population, eh bien vous attisez ces phénomènes identitaires qui, en plus, et je termine là-dessus, sont aggravés par le fait qu'il n'y a pas de canal d'expression d'une opposition, je dirais, constructive et d'une latérale.
Sans oublier que l'Éthiopie est un trou noir médiatique, Père Benoît. Beaucoup absolument. De correspondants étrangers plient bagage parce que ces correspondants n'ont pas accès à l'information. Et puis, il y a aussi un autre...
C'est aussi
il y a
le aussi... capital diplomatique du continent.
Voilà.
Donc, c'est
avec
un trou noir.
Et paradoxalement, le siège de l'Union africaine.
C'est extraordinaire comme contradiction. C'en est une de plus.
Alors, autre prisme déformant, c'est l'Érythrée. C'est-à-dire, oui. Vous avez évoqué tout à l'heure l'Éthiopie. Prison à ciel ouvert, mais c'est ce genre de formule est plutôt appliqué à l'Érythrée. Et que autant on se préoccupe du sort des droits des Érythréens, ce qui est tout à fait logique et qu'on approuve, mais on parle très peu de...
Encore là, il y a encore ici un problème de travail des journalistes. Il y a une espèce d'effet médiatique qui fait qu'on focalise sur l'Érythrée. Et d'ailleurs, c'est complètement stupide, parce que non seulement il y a tout ce qu'on vient de décrire autour de cette table sur la situation en Éthiopie, mais aussi le président justifie les mesures de répression en stigmatisant l'ennemi érythréen. Ouais. Donc c'est tellement facile. Ce qui est en train de se faire, c'est que les nouveaux dragons, entre guillemets, avec les croissances à deux chiffres, le Rwanda ou l'Éthiopie de l'Afrique, sont en train de vouloir la démocratie. Voilà, tout simplement.
Et c'est la fin de cette émission. Merci Pierre Benoît, Sabine Sessou, Vincent Hugeux, ainsi qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Cette édition est à retrouver sur les sites de RFI et de TV5 Monde. Grand merci de votre fidélité.